Chapitre 4. La mort du vicaire. Le sixième jour, j'occupais pour la dernière fois notre poste d'observation, où bientôt je me trouvais seul. Au lieu de rester comme d'habitude auprès de moi et de me disputer la lucarne, le vicaire était retourné dans la laverie. Une pensée soudaine me frappa. Vivement et sans bruit, je traversai la cuisine. Dans l'obscurité, je l'entendis qui buvait. J'étendis le bras et mes doigts saisirent une bouteille de vin. Il y eut dans ces ténèbres une lutte qui dura quelques instants. La bouteille tomba et se brisa. Je lâchai prise et me relevai. Nous restâmes immobiles, palpitants, nous menaçant à voix basse. À la fin, je me plantai entre lui et la nourriture, lui faisant part de ma résolution d'établir une discipline. Je divisai les provisions de l'office en rations qui devaient durer 10 jours. Je ne voulus pas le laisser manger plus ce jour-là. Dans l'après-midi, il tenta de s'emparer de quelques rations. Je m'étais assoupi, mais à ce moment je m'éveillai. Pendant tout un jour, nous demeurâmes face à face, moi là, mais résolu, lui pleurnichant et se plaignant de la faim. Cela ne dura, j'en suis sûr, qu'un jour et qu'une nuit. Mais il me sembla alors, et il me semble encore maintenant, que ce fut d'une longueur interminable. Ainsi, notre incompatibilité s'était accrue au point de se terminer en un conflit déclaré. Pendant 2 longs jours, nous nous querellâmes à voix basse, argumentant et discutant âprement. Parfois, j'étais obligé de le frapper follement du pied et des poings. D'autres fois, je le cajolais et tâchais de le convaincre. J'essayais même de le persuader en lui abandonnant la bouteille de vin, car il y avait une pompe où je pouvais avoir de l'eau. Mais rien n'y fit, ni bonté, ni violence. Il n'était accessible à aucune raison. Il ne voulut cesser ni ses attaques pour essayer de prendre plus que sa ration, ni ses bruyants radotages. Il n'observait en rien les précautions les plus élémentaires pour rendre notre emprisonnement supportable. Lentement, je commençai à me rendre compte de la complète ruine de son intelligence, et m'aperçus enfin que mon seul compagnon, dans ses ténèbres secrètes et malsaines, était un être dément. D'après certains vagues souvenirs, je suis enclin à croire que mon propre esprit bâtit aussi la campagne. Chaque fois que je m'endormais, j'avais des rêves étranges et hideux. Bien que cela pût paraître bizarre, je serais assez disposé à penser que la faiblesse et la démence du vicaire me furent un salutaire avertissement, m'obligèrent à me maintenir sain d'esprit. Le 8e jour, il commença à parler très haut, et rien de ce que je pus faire ne parvint à modérer son ton. « C'est juste, ô Dieu, répéta-t-il sans cesse, c'est juste, que le châtiment retombe sur moi et sur les miens. Nous avons péché, nous ne t'avons pas écouté, il y avait partout des pauvres et des souffrants, on les foulait aux pieds, et je gardais le silence. Je prêchais une folie acceptable par tous. Mon Dieu, quelle folie! Alors que j'aurais dû me lever quand même la mort m'eût été réservée, et appeler le monde à la repentance, à la repentance. » Les oppresseurs des pauvres et des malheureux, le pressoir du Seigneur. Puis, soudain, il en revenait à la nourriture que je maintenais hors de sa portée, et il me priait, me suppliait, pleurait et finalement menaçait. Bientôt, il prit un ton fort élevé. Je l'invitai à crier moins fort. Alors, il vit que par ce moyen, il aurait prise sur moi. Il me menaça de crier plus fort encore et d'attirer sur nous l'attention des Martiens. J'avoue que cela m'effraya un moment, mais la moindre concession eût diminué dans une trop grande proportion nos chances de salut. Je le mis au défi, bien que je ne fusse nullement certain qu'il ne mît sa menace à exécution. Mais ce jour-là, du moins, il ne le fit pas. Il continua à parler, haussant insensiblement son ton, pendant les 8e et 9e journées presque entières, débitant des menaces, des supplications, au milieu d'un torrent de phrases, où il exprimait une repentance à moitié stupide et toujours futile d'avoir négligé le service du Seigneur. Et je me sentis une grande pitié pour lui. Il finit par s'endormir quelque temps, mais il reprit bientôt avec une nouvelle ardeur, criant si fort qu'il devint absolument nécessaire pour moi de le faire taire par tous les moyens. « Restez tranquille, implorai-je. » Il se mit sur ses genoux, car jusqu'alors il avait été accroupi dans les ténèbres, près de la batterie de cuisine. « Il y a trop longtemps que je reste tranquille, » hurla-t-il, sur un ton qui dut parvenir jusqu'au cylindre. Maintenant, je dois aller porter mon témoignage. Malheur à cette cité infidèle, malédiction, malheur, anathème, malheur. Malheur aux habitants de la terre à cause des autres voix de la trompette. Taisez-vous, pour l'amour de Dieu, dis-je, en me mettant debout et terrifié à l'idée que les Martiens pouvaient nous entendre. Non, cria le vicaire de toutes ses forces, se levant aussi et étendant les bras. Parle, il faut que je parle. La parole du Seigneur est sur moi. En trois enjambées, il fut à la porte de la cuisine. Il faut que j'aille apporter mon témoignage. Je pars, je n'ai déjà que trop tardé. J'étendis le bras et j'atteignis dans l'ombre un couperet suspendu au mur. En un instant, j'étais derrière lui, affolé de peur. Avant qu'il n'arrivât au milieu de la cuisine, je l'avais rejoint. Par un dernier sentiment humain, je retournai le tranchant et le frappai avec le dos. Il tomba en avant tout de son long et resta étendu par terre. Je trébuchai sur lui et demeurai un moment haletant. Il gisait inanimé. Tout à coup, je perçus un bruit au dehors. Des plâtras se détachèrent, dégringolèrent, et l'ouverture triangulaire du mur se trouva obstruée. Je levai la tête et aperçus, à travers le trou, la partie inférieure d'une machine à main s'avançant lentement. L'un de ses membres agrippeurs se déroula parmi les décombres, puis un autre parut, tâtonnant au milieu des poutres écroulées. Je restai là, pétrifié, les yeux fixes. Alors je vis, à travers une sorte de plaque vitrée située près du bord supérieur de l'objet, la face, si l'on peut l'appeler ainsi, et les grands yeux sombres d'un martien, cherchant à pénétrer les ténèbres, puis un long tentacule métallique qui serpenta par le trou en tâtant lentement les objets. Avec un grand effort, je me retournai, me heurtai contre le corps du vicaire et m'arrêtai à la porte de la laverie. Le tentacule maintenant s'était avancé d'un mètre ou deux dans la pièce, se tortillant et se tournant dans tous les sens, avec des mouvements étranges et brusques. Pendant un instant, cette marche lente et irrégulière me fascina. Avec un cri faible et rauque, je me réfugiai tout au fond de la laverie, tremblant violemment et à peine capable de me tenir debout. J'ouvris la porte de la soute à charbon, et je restai là dans les ténèbres, examinant le seuil à peine éclairé de la cuisine, écoutant attentivement. Le martien m'avait-il vu? Que pouvait-il faire maintenant? Derrière cette porte, quelque chose très doucement se mouvait en tous sens. De temps en temps, cela heurtait les cloisons ou reprenait ses mouvements avec un faible tintement métallique, comme le bruit d'un trousseau de clés. Puis un corps lourd, je savais trop bien lequel, fut traîné sur le carrelage de la cuisine jusqu'à l'ouverture. Irrésistiblement attiré, je me glissai jusqu'à la porte et jetai un coup d'œil dans la cuisine. Par le triangle de clarté extérieure, j'aperçus le martien dans sa machine aux 100 bras, examinant la tête du vicaire. Immédiatement, je pensai qu'il allait inférer ma présence par la marque du coup que j'avais asséné. Je regagnai la soute à charbon, en refermai la porte et me mis à entasser sur moi dans l'obscurité autant que je pus de charbons et de bûches, en tâchant de faire le moins de bruit possible. À tout instant, je demeurai rigide, écoutant si le martien avait de nouveau passé ses tentacules par l'ouverture. Alors reprit le faible cliquetis métallique. Bientôt je l'entendis plus proche, dans la laverie, d'après ce que je pus en juger. J'eus l'espoir que le tentacule ne serait pas assez long pour m'atteindre. Il passa, raclant légèrement la porte de la soute. Ce fut un siècle d'attente presque intolérable. Puis j'entendis remuer le loquet. Il avait trouvé la porte. Le martien comprenait les serrures. Il ferrailla un instant et la porte s'ouvrit. Des ténèbres où j'étais, je pouvais juste apercevoir l'objet, ressemblant à une trompe d'éléphant plus qu'à autre chose, s'agitant de mon côté, touchant et examinant le mur, le charbon, le bois, le plancher. Cela semblait être un gros ver noir, agitant de côté et d'autre sa tête aveugle. Une fois même, il toucha le talon de ma bottine. Je fus sur le point de crier, mais je mordis mon poing. Pendant un moment, il ne bougea plus. J'aurais pu croire qu'il s'était retiré. Tout à coup, avec un brusque déclic, il agrippa quelque chose, je me figurai que c'était moi, et parut sortir de la soute. Pendant un instant, je n'en fus pas sûr. Apparemment, il avait pris un morceau de charbon pour l'examiner. Je profitais de ce moment de répit pour changer de position, car je me sentais engourdi et j'écoutais. Je murmurais des prières passionnées pour échapper à ce danger. Soudain, j'entendis revenir vers moi le même bruit lent et net. Lentement, lentement, il se rapprocha, raclant les murs et heurtant le mobilier. Pendant que je restais attentif, doutant encore, la porte de la soute fut vigoureusement heurtée et elle se ferma. J'entendis le tentacule pénétrer dans l'office. Il renversa des boîtes à biscuits, brisa une bouteille et il y eut encore un choc violent contre la porte de la soute. Puis le silence revint, qui se continua en une attente infinie. Était-il parti ? À la fin, je dus conclure qu'il s'était retiré. Il ne revint plus dans la laverie, mais pendant toute la dixième journée, dans des ténèbres épaisses, je restais enseveli sous les bûches et sous le charbon, n'osant même pas me glisser au dehors pour avoir le peu d'eau qui m'était si nécessaire. Ce fut le lendemain seulement, le 11e jour, que j'osai me risquer à chercher quelque chose à boire. Chapitre 5. Le silence. Mon premier mouvement, avant d'aller dans l'office, fut de clore la porte de communication entre la cuisine et la laverie. Mais l'office était vide. Les provisions avaient disparu jusqu'aux dernières bribes. Le Martien les avait sans doute enlevées le jour précédent. À cette découverte, le désespoir m'accabla pour la première fois. Je ne pris donc pas la moindre nourriture, ni le 11e, ni le 12e jour. D'abord, ma bouche et ma gorge se desséchèrent, et mes forces baissèrent sensiblement. Je restais assis, au milieu de l'obscurité de la laverie, dans un état d'abattement pitoyable. Je ne pouvais penser qu'à manger. Je me figurais que j'étais devenu sourd, car les bruits que j'étais accoutumé à entendre avaient complètement cessé aux alentours du cylindre. Je ne me sentais pas assez de force pour me glisser sans bruit jusqu'à la lucarne, sans quoi j'y serais allé. Le 12e jour, ma gorge était tellement endolorie qu'au risque d'attirer les Martiens, j'essayais de faire aller la pompe grinçante placée sur l'évier, et je réussis à me procurer 2 verres d'eau de pluie noirâtre et boueuse. Ils me rafraîchirent néanmoins beaucoup, et je me sentis rassuré et enhardi par ce fait qu'aucun tentacule inquisiteur ne suivit le bruit de la pompe. Pendant tous ces jours, divagant et indécis, je pensais beaucoup au vicaire et à la façon dont il était mort. Le 13e jour, je bus encore un peu d'eau. Je m'assoupis et rêvai d'une façon incohérente de victuailles et de plans d'évasion vagues et impossibles. Chaque fois, je rêvai de fantômes horribles, de la mort du vicaire ou de somptueux dîners. Mais, endormi ou éveillé, je ressentais de vives douleurs qui me poussaient à boire sans cesse. La clarté qui pénétrait dans l'arrière-cuisine n'était plus grise, mais rouge. À mon imagination bouleversée, cela semblait couleur de sang. Le 14e jour, je pénétrai dans la cuisine et je fus fort surpris de trouver que les pousses de l'herbe rouge avaient envahi l'ouverture du mur, transformant la demi-clarté de mon refuge en une obscurité écarlate. De grand matin, le 15e jour, j'entendis de la cuisine une suite de bruits curieux et familiers, et, prêtant l'oreille, je crus reconnaître le reniflement et les grattements d'un chien. Je fis quelques pas, et j'aperçus un museau qui passait entre les tiges rouges. Cela m'étonna grandement. Quand il m'eut flairé, le chien aboya. Immédiatement, je pensai que si je réussissais à l'attirer sans bruit dans la cuisine, je pourrais peut-être le tuer et le manger. Et, dans tous les cas, il vaudrait mieux le tuer de peur que ses aboiements ou ses allées et venues ne finissent par attirer l'attention des Martiens. Je m'avançai à 4 pattes, l'appelant doucement, mais soudain il retira sa tête et disparut. J'écoutais, puisque je n'étais pas sourd, et je me convainquis qu'il ne devait plus y avoir personne à la fosse. J'entendis un bruit de battement d'ailes et un rauque croassement, mais ce fut tout. Pendant très longtemps, je demeurai à l'ouverture de la brèche, sans oser écarter les tiges rouges qui l'encombraient. Une fois ou deux, j'entendis un faible grincement, comme de pattes de chien allant et venant dans le sable au-dessous de moi. Il y eut encore des croissements, puis plus rien. À la fin, encouragé par le silence, je regardai. excepté dans un coin où une multitude de corbeaux sautillaient et se battaient sur les squelettes des gens dont les Martiens avaient absorbé le sang, il n'y avait pas un être vivant dans la fosse. Je regardais de tous côtés, n'osant pas en croire mes yeux. Toutes les machines étaient parties. À part l'énorme monticule de poudre gris-bleu dans un coin, quelques barres d'aluminium dans un autre, les corbeaux et le squelette des morts, cet endroit n'était plus qu'un grand trou circulaire creusé dans le sable. Peu à peu, je me glissai hors de la lucarne entre les herbes rouges et je me mis debout sur un morceau de plâtras. Je pouvais voir dans toutes les directions, sauf derrière moi, au nord, et nulle part il n'y avait la moindre trace des Martiens. Le sable dégringola sous mes pieds, mais un peu plus loin, les décombres offraient une pente praticable pour gagner le sommet des ruines. J'avais une chance d'évasion et je me mis à trembler. J'hésitai un moment, puis dans un accès de résolution désespérée, le cœur me battant violemment, j'escaladai le tas de ruines sous lequel j'avais été enterré si longtemps. Je jetai de nouveau les regards autour de moi. Vers le nord, pas plus qu'ailleurs, aucun Martien n'était visible. Lorsque, la dernière fois, j'avais traversé en plein jour cette partie du village de Chine, j'avais vu une route bordée de confortables maisons blanches et rouges, séparées par des jardins aux arbres abondants. Maintenant, j'étais debout sur un tas énorme de gravier, de terre et de morceaux de briques, où croissait une multitude de plantes rouges en forme de cactus, montant jusqu'aux genoux, sans la moindre végétation terrestre pour leur disputer le terrain. Les arbres autour de moi étaient morts et dénudés, mais plus loin, un enchevêtrement de filaments rouges escaladait les troncs encore debout. Les maisons avaient toutes été saccagées, mais aucune n'avait été brûlée. Parfois leurs murs s'élevaient encore jusqu'au second étage, avec des fenêtres arrachées et des portes brisées. L'herbe rouge croissait en tumulte dans leurs chambres sans toit. Au-dessous de moi était la grande fosse où les corbeaux se disputaient les déchets des Martiens. Quelques autres oiseaux voltaient çà et là parmi les ruines. Au loin, j'aperçus un chat maigre qui s'esquivait en rampant le long d'un mur, mais nulle trace d'homme. Le jour, par contraste avec mon récent emprisonnement, me semblait d'une clarté aveuglante. Une douce brise agitait mollement les herbes rouges qui recouvraient le moindre fragment de sol. Oh, la douceur de l'air frais qu'on respire !